Les vendredis de l'Europe, France Inter lance la campagne des européennes avec une série de matinales spéciales. Rendez-vous chaque vendredi avec les têtes de liste qui mèneront la campagne. Elles, ils répondront à nos questions et aux vôtres, chers auditeurs. Appelez au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Avec Marion Lourd, nous recevons deux invités ce matin. Apparition par ordre alphabétique. Avant Marion Maréchal pour le parti Reconquête, notre premier invité. Invité et tête de liste Gauche Unie, Léon Desfontaines, bonjour.
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 Gauche Unie réunit notamment le Parti communiste français, les radicaux de gauche. Première question, et c'est une question qu'on posera à toutes les têtes de liste, la France dans l'Union européenne, bonne ou mauvaise chose ?
Malheureusement, c'est de moins en moins une bonne chose, pour une simple et bonne raison, c'est que l'Union européenne, elle est en train de se construire contre la volonté des peuples. En 2005, la France a été soumise à un référendum, c'était le traité constitutionnel européen, et plus de 55% des Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe libérale, et malheureusement, elle est revenue par la fenêtre, et donc aujourd'hui, elle se construit contre les peuples, c'est une fraude démocratique aujourd'hui, la construction européenne.
Une fraude démocratique, donc c'est une mauvaise chose, pour le dire très simplement.
Je le dis, c'est de moins en moins une bonne chose. Mais je pense qu'il ne faut pas pour autant remettre en cause cette coopération régionale, il faut construire une autre Europe.
À Léon Desfontaines, en France, le Sénat a rejeté hier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, résultat d'une alliance de voix entre votre parti et la droite. Vous aviez qualifié le CETA, je cite, de fraude démocratique. Ce résultat, c'est donc une victoire ?
C'est une victoire. Le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada et l'Union européenne, est à l'œuvre dans notre continent, sur notre continent, depuis plus de 7 ans. Pourtant, il n'avait jamais été ratifié.
Application provisoire depuis 2017.
C'est une application très, très provisoire, mais qui s'est étendue de manière très durable. Pendant plus de 7 ans, quand même, il a été appliqué. Nous le remettrons à la niche de l'Assemblée nationale pour que les députés puissent revoter dessus le 30 mai prochain. Mais la réalité, c'est que c'est l'exemple même de ce que j'entends par fraude démocratique. On a un traité de libre-échange qui a des conséquences très concrètes, notamment sur la mise en concurrence de nos agriculteurs avec les agriculteurs du monde entier. Et pour autant, les parlements nationaux ne sont pas consultés pour mettre en place ces accords de libre-échange. Et bien, cette fraude démocratique, ça doit cesser. C'est ce que je propose de faire dans cette campagne européenne.
Alors, ils le sont. Reste à voir si effectivement l'exécutif après voudra notifier ce refus au niveau européen. En tout cas, il est appliqué, vous le disiez, depuis 2017, le CETA. Mais la balance, elle est excédentaire pour nous. En fait, les exportations françaises vers le Canada, elles ont augmenté. C'est très positif pour le fromage, 60% de plus, pour les céréales, 30% de plus. Et là, vous dites aux agriculteurs, bon, nous, ce qu'on veut, c'est arrêter ça.
Il y aura toujours des échanges, ça c'est un fait, y compris avec le Canada, accord de libre-échange ou pas. Ce que j'observe, c'est que pour l'instant, en effet, c'est bénéficiaire pour les agriculteurs français. Le problème étant, c'est que l'ensemble des fermes aujourd'hui canadiennes sont en train de se mettre aux normes environnementales européennes pour pouvoir justement ensuite exporter à destination de l'Union européenne. La différence, c'est que les exploitations agricoles au Canada, elles font 15 000 hectares en moyenne. Elles sont bien plus grandes que celles que nous avons sur le territoire européen, et donc il y aura une concurrence déloyale qui va s'installer. Et j'ai une deuxième chose à dire, c'est que nous exportons principalement du vin et du fromage français. Est-ce que les Canadiens sont prêts à s'en passer ? Nous, en tout cas, on est prêts à se passer du bœuf élevé aux hormones au Canada. Donc la réalité, c'est que de toute façon, le vin et le fromage, nous continuons à l'exporter parce que c'est le magnifique travail de nos agriculteurs, de notre producteur, de notre culture française.
Et pourtant, les producteurs d'alcool, les exportateurs d'alcool aujourd'hui disent que c'est un très mauvais signal et qu'ils sont inquiets.
Il y aura toujours de l'exportation du vin et du fromage, je ne m'inquiète pas. En revanche, la mise en concurrence déloyale avec du bœuf élevé aux hormones au Canada, ça, je n'en veux pas, moi, dans le territoire européen ni en France.
La gauche unie demande le retrait de tous les accords de libre-échange.
Oui, l'ensemble des accords de libre-échange, quels qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, c'est le système qui fonce droit dans le mur pour deux raisons. Un, pour la raison environnementale, parce qu'on multiplie les émissions de gaz à effet de serre à cause de ces échanges. La Nouvelle-Zélande a plus de 15 000 km des côtes européennes pour importer quoi ? Des pommes, du bovin, des hauts vins, c'est complètement invraisemblable. Et deuxièmement, pour aussi permettre à nos agriculteurs de sortir de cette mise en concurrence mortifère avec les agriculteurs du monde entier. Mmh. C'est les deux raisons pour lesquelles nous sommes opposés à l'ensemble de ces accords de libre-échange.
Léon Desfontaines, sur le papier, vous défendez l'environnement, c'est dans votre profession de foi. D'ailleurs, vous n'avez pas encore de programme, mais il y a déjà un petit dépliant avec quelques mesures. Et donc, quand l'Union européenne décide de mettre en suspens des normes établies dans la politique agricole commune pour répondre à la colère des agriculteurs, je rappelle que vous venez d'une famille d'agriculteurs, vous comprenez ? Vous dites, ok, on suspend les jachères, en l'occurrence.
Moi, j'ai toujours été clair, il ne faut pas d'interdiction sans solution. Et le monde agricole, l'impératif environnemental ne se fera pas contre le monde agricole, il ne se fera pas contre les industries, il se fera avec les industries et avec le monde agricole. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Il ne faut pas d'interdiction sans solution pour une simple et bonne raison, que si on interdit et que pour conséquence, ça a une diminution des productions agricoles sur le territoire européen, ça veut dire qu'on va les importer de l'autre bout du monde et ça sera contre-productif pour l'environnement. Donc pas d'interdiction sans solution. En revanche, il faut une écologie scientifique, rationnelle, ambitieuse, populaire, c'est l'écologie que nous portons, qui, je pense, est singulière sur la scène politique.
Vous dites que vous n'avez pas une vision décroissante, c'est ça, en fait ?
Non, c'est clair, pas une vision décroissante du tout. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ce que je dis, c'est que pour répondre à l'impératif environnemental, il va falloir produire beaucoup plus en France. Parce qu'il va falloir réindustrialiser notre pays, rapprocher la production de la consommation, il va falloir construire des lignes de chemin de fer pour faire rouler des trains, il va falloir construire des trains sur le territoire français. Et donc, il faut engager partout sur notre pays des grands travaux utiles pour l'environnement. Pour faire ces grands travaux, il va falloir avoir de l'énergie, plus de production électrique. Et c'est pour cela que nous sommes les seuls à gauche à défendre le mix énergétique nucléaire et renouvelable. C'est à la fois un impératif pour la réindustrialisation, pour retrouver notre souveraineté, pour baisser la facture des Français, mais bien sûr pour répondre à cet impératif environnemental.
Et dans votre profession de foi, il est question de 12 travaux qui vont améliorer l'écologie. En fait, il n'y a pas le détail, on se demande un peu ce que c'est. Vous n'allez pas faire toute la liste, mais un exemple concret.
Le mix énergétique nucléaire renouvelable, le développement du fret ferroviaire, massivement passé de 10% à 25% du transport de marchandises par voie ferroviaire. Mais pour ça, il nous faut un service public de la SNCF, contrairement à ce que nous propose la Commission européenne, et deux, développer des grandes infrastructures ferroviaires permettant de transporter les marchandises, comme le Lyon-Turin, par exemple, que nous soutenons, bien évidemment, mais il y a d'autres chantiers qu'il faut engager dans le fret ferroviaire.
Mmh. Autre chapitre, l'Ukraine, Léon, et c'est un moment important, Léon Desfontaines, avec des auditeurs qui sont nombreux à vous interroger, à vouloir vous poser des questions sur la position et votre position par rapport à l'Ukraine. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour.
Merci de participer à ce Vendredi de l'Europe. Vous avez une question pour la tête de liste Gauche Unie ce matin.
Oui, j'ai une question au préalable. Je voulais faire une petite remarque à France Inter. C'est la première fois, la dernière fois qu'il y a eu un dirigeant communiste invité à la matinale de France Inter. C'était Fabien Roussel le 2 avril 2023. Ça fait presque un an.
Alors, parlons voilà, des européennes et parlons des enjeux du 9 juin prochain. Je vous assure que nous respectons les équilibres et le temps de parole vraiment de manière extrêmement stricte.
Certainement.
Votre question, Renaud.
Oui, j'y vais. Je m'adresse à Léon Desfontaines. Vous présentez votre liste comme une liste pour l'Europe de la paix. Qu'est-ce qui vous distingue des autres listes ?
Merci Renaud pour votre question. Réponse, Léon Desfontaines.
Merci pour cette question. Nous ne sommes ni des bellicistes, ni des pacifistes béats face à la situation en Ukraine. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut empêcher à tout prix d'arriver en guerre. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que vis-à-vis de l'Ukraine, il faut bien sûr aider les Ukrainiens à se défendre, empêcher à tout prix que les Russes continuent d'avancer sur les terres ukrainiennes. Et ça implique en effet l'envoi d'armes défensives. Mais parallèlement, nous devons porter un cessez-le-feu. Nous disons qu'il faut retrouver une issue diplomatique à ce conflit et surtout mettre une ligne rouge, contrairement à ce que nous dit le président de la République, c'est celle de l'envoi de troupes sur le front ukrainien, parce que je ne souhaite pas voir le moindre soldat français mourir en Ukraine.
Christian, sur l'appli France Inter, prolonge la question de Renaud. Il vous dit « Mon père était un ancien militant du PC dans les années 30. Deux choses étaient fondamentales dans vos partis, dans leur opposition aux accords de Munich. Donc je ne comprends pas que le PCF prenne une position munichoise sur l'Ukraine. »
Mais le contexte est complètement différent. La Tchécoslovaquie à l'époque, du coup, vu que c'était le sujet concerné sur Munich, n'avait pas bénéficié d'autant d'aide. Il n'était d'ailleurs pas en guerre ouverte contre l'Allemagne. Il n'avait pas bénéficié autant d'aide militaire. Nous le disons. Nous devons aider les Ukrainiens pour résister face à l'invasion de la Russie. Mais nous devons trouver à tout prix une issue diplomatique. Nous sommes un risque d'un conflit globalisé, d'une potentielle troisième guerre mondiale, vu qu'il n'y a plus aucune ligne rouge. Il faut que les mots soient clairs. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir aucune limite lorsqu'on a deux puissances nucléaires? Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir de limite? Donc moi j'interroge le président de la République parce qu'il ne répond jamais à cette question. Qu'est-ce qu'il veut concrètement?
Et dites-nous, vous, jusqu'où vous allez? C'est-à-dire, est-ce que quand les 27 disent on va utiliser les bénéfices des biens gelés de la Russie pour aller financer l'armement de l'Ukraine, vous pensez que c'est une bonne nouvelle?
Mais je pense que c'est une bonne chose, moi. Ça, en effet, c'est une bonne chose. Mais il y a la question financière, d'aide financière, et il y a la question de comment on arrive à fournir des armes et des obus, notamment aux Ukrainiens. Et là, malheureusement, à cause des politiques austéritaires et des politiques libérales européennes, on a détruit notre industrie de l'armement. Aujourd'hui, en France, on produit 2000 obus par mois, quand le front ukrainien nous en demande 5000 par jour. Donc ça doit nous faire poser des questions aussi sur notre industrie de l'armement.
Il faut aller jusqu'à un emprunt européen, comme le souhaite par exemple Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens qui ont été entendus lors du sommet.
Je pense qu'il faut surtout regarder comment on arrive à retrouver une industrie de l'armement capable de défendre l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne tiendra pas plusieurs années comme ça, et donc c'est pour ça qu'il faut trouver à tout prix une issue diplomatique.
Votre liste s'appelle Gauche Unie, et pourtant vous n'arrêtez pas de vous diviser à gauche. Vous faites campagne avec un mot, non, ce nom qu'il avait donc emporté lors du référendum sur une constitution pour l'Europe en 2005. 20 ans après, l'Europe a changé. Vous faites toujours de ce nom votre boussole et la gauche est complètement éclatée. Pourquoi est-ce que vous faites campagne d'abord, on a le sentiment, contre les écologistes, contre la liste menée par Raphaël Glucksmann, Place Publique et PS?
Je me réfère souvent à 2005 parce que c'est le moment où justement il y a eu la plus grosse fraude démocratique de la construction européenne. Les Français ont dit non, on ne veut pas cette Europe libérale et malheureusement elle est arrivée par la fenêtre quelques années plus tard, en 2008 avec le traité de Lisbonne. Et donc aujourd'hui, oui, je dis aux Françaises et aux Français que nous pouvons reprendre la main sur les décisions qui sont prises.
Et mais dans votre viseur, il y a les écologistes et surtout donc la liste PS Place Publique, ce sont vos principaux adversaires?
C'est pas mes principaux adversaires, en revanche je m'inscris complètement en contradiction avec leur projet politique pour une simple et bonne raison, que justement ce qu'ils proposent c'est davantage d'Europe, davantage un sursaut fédéraliste, comme l'entend M. Glucksmann, pour cette Europe libérale. Ben je le dis, les Français ont dit non. Et si la gauche se détourne des Français qui ont dit non, de ces ouvriers qui ont vu leur usine délocalisée, fermée à cause de ces politiques européennes, alors malheureusement, la gauche ne s'adresse plus à ces catégories populaires. Une dernière chose, le pacte budgétaire européen qui revient à l'ordre du jour aujourd'hui. Quand est-ce que nous avons voté pour ça? Quand est-ce que les Français ont voté sur ce pacte budgétaire européen?
En 1992.
Ils ont voté aussi en 2005 et ils ont voté contre
Maastricht.
Donc aujourd'hui, je le dis, ce pacte budgétaire européen de 10 milliards d'euros d'économies en France annoncé par Bruno Le Maire.
Non, le pacte budgétaire a été voté en 1992.
Qui sera très bien. En 2005, quand on a dit non, quand les Français ont dit non, c'était non à cette Europe libérale et à ces fermetures d'usines et à ce recul des services publics. 10 milliards d'euros d'économies qui ont été annoncés par Bruno Le Maire, qui vont devenir 25 et probablement 50 milliards si on suit la Cour des comptes. Ça sera la dernière coupe budgétaire de nos services publics pour une simple et bonne raison. Nos services publics ne se relèveront jamais d'une telle attaque. Nos hôpitaux, nos écoles, tout de même. Eh bien, le groupe de M. Glucksmann, qui se dit défenseur de la gauche, je ne lui attribuerait pas ce qualificatif, aujourd'hui à voter ce pacte budgétaire européen et à voter contre pour la fermeture de ces services publics. Donc je le dis, on a besoin de réincarner une gauche populaire qui va défendre la réindustrialisation, notre souveraineté énergétique et surtout une gauche qui remette en cause ces règles budgétaires européennes. C'est pour cela que je m'inscris dans la gauche du non en 2005 et c'est pour cela aujourd'hui que je propose aux Françaises et aux Français de reprendre la main.
Très rapidement, une question qui vous concerne vous. Vous avez 28 ans, vous venez de démarrer la politique, vous vous lancez directement dans le grand bain là avec les Européens.
Je me lance dans le grand bain, mais je viens d'une ville, Amiens, qui a été marquée par les fermetures d'usines, les reculs des services publics. Et c'est aussi pour ça que je m'engage aux Européennes, c'est pour m'adresser à celles et ceux qui sont victimes de ces politiques libérales européennes.
Merci Léon Desfontaines d'avoir été l'invité de France Inter et de ce Vendredi de l'Europe. À suivre dans cette matinale spéciale, notre deuxième invité Marion Maréchal. Vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter. La radio des Européennes.